Magnum vous informe. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans le podcast Magnum. Nous allons parler dans ce podcast du monde fascinant de l'intelligence artificielle, une révolution technologique qui façonne notre quotidien. De la science-fiction à la réalité, l'IA s'est vraiment imposée comme une force transformative qui a véritablement réinventé la manière dont nous interagissons avec la technologie, l'information et même entre nous. Alors dans cet épisode, Manon nous fera un petit quiz dans ce podcast sur l'IA. Mais avant de parler des types d'IA, est-ce qu'Amandine, tu peux nous expliquer ce qu'est concrètement l'IA ?
Alors oui Léo, pour raccourcir le terme d'intelligence artificielle, on peut d'abord dire IA. Ce sont des programmes informatiques capables d'effectuer des tâches nécessitant généralement l'intelligence humaine. L'objectif de l'IA est de créer des systèmes capables d'imiter les actions de notre cerveau. Ça permet d'automatiser des tâches complexes et d'améliorer l'efficacité dans divers domaines, mais également d'être plus précis et d'analyser d'énormes quantités de données en peu de temps.
Oui, c'est vrai, Amandine, les IA ont émergé en tant que domaine de recherche dans les années 1950, mais leur développement et leur application se sont accélérés au cours des dernières décennies, en particulier grâce aux progrès technologiques ou encore l'augmentation de la puissance informatique. On retrouve les IA aujourd'hui dans divers secteurs et dans de nombreuses entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, qui investissent dans la recherche et le développement de solutions basées sur l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup, Gwendal. Alors, autour de la table, vous pensez à quoi quand on vous parle concrètement d'IA ou même de type d'IA, Manon ?
Moi, je trouve qu'au début, tout début des IA, on parlait énormément des robots, on les humanisait énormément. Il y avait une présence hyper vaste dans les films, notamment. Donc, je ne sais pas si vous avez vu des films avec des robots.
Moi, je pense là directement à Ex Machina. Je ne sais pas si vous avez vu ce film.
Moi, je n'ai pas vu personnellement.
T'as vu, Léo ? Oui, Ex Machina, c'est un film où on voit concrètement la relation entre l'humain et l'IA. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un vrai robot, c'est une femme. Je n'ai pas trop envie de vous spoiler. Je ne sais pas si vous, auditeurs, vous avez vu ce film.
On peut le voir
sur les plateformes de streaming, okay. Je crois qu'il est encore disponible. Mais allez le voir, franchement, on voit vraiment cette relation. Je n'ai pas envie de spoiler. C'est vrai que ça fait peur, surtout vers la fin. Tu vois que l'IA est en train de se développer. Mais le film est assez récent.
Moi, j'ai vu personnellement Robocop et Pixar Wall-E. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Oui, le fameux Pixar avec les robots où ça parle pas beaucoup pendant le film, mais en fait c'est tout simplement un peu un voyage. Il y a même une transition un peu écologique, c'est important d'en parler également quand on parle des nouvelles technologies. Et toi, Amandine, t'as vu quoi ?
Moi, je vous conseille un film qui était plutôt précurseur pour l'époque. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Il est sorti dans les années 60.
C'est un classique, un classique du genre, même un classique du cinéma pour être plus large. Beaucoup de personnes ont ce film pour référence, donc franchement,
c'est
vraiment
sûr.
Un classique.
Maintenant, on peut faire le parallèle entre les machines qui utilisent l'IA. Ça fait un mélange un peu de robotique et de logiciel et ça permet maintenant d'assister l'homme ou même de le remplacer. Par exemple, le restaurant à Tours Ohai Izaka. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un restaurant japonais. Et en fait, c'est des robots qui viennent nous servir à table avec un système d'automatisation. En fait, il sait faire les allers-retours entre la cuisine et notre table.
J'y suis déjà allé.
Pareil.
C'est juste à côté du Intersport à Tours.
Ouais, c'est ça.
Et franchement, c'est
impressionnant.
Super, c'est impressionnant où tu vois, en fait, tu as des robots avec des plateaux qui viennent directement te livrer ta nourriture.
Et après, tu peux les renvoyer directement à la cuisine en appuyant sur un bouton. Il sait retrouver son chemin.
Donc, c'est bien fait quand même. C'est assez réussi.
Ouais. C'est une bonne programmation.
Et du coup, là, je rebondis un peu sur ça pour dire que maintenant, en vrai, depuis un an ou deux, on parle surtout de l'intelligence artificielle pour les logiciels et tout ce qui est outils numériques, comme par exemple le ChatGPT. Je ne sais pas si vous utilisez autour de la table, ça vous parle ?
Oui, exactement. C'est plus qu'un logiciel pour nous.
Toi Gwenda, tu l'utilises à titre personnel ou même à titre pro ?
C'est vrai qu'à titre professionnel, c'est... En fait, c'est super important parce que c'est un nouvel outil. Et en fait, tous les outils dans le numérique, il faut les utiliser. Parce qu'à l'époque, quand il y a eu le début de Wikipédia, c'était un peu controversé. Après, il faut toujours bien savoir doser.
Faut savoir bien l'utiliser.
Il ne faut pas juste recopier. Il faut s'en servir comme un outil qui nous aide.
Après, c'est que le début. Vous pensez que ça va évoluer
Sûr que c'est amené à évoluer. On a vu déjà l'émergence de ChatGPT qui s'est fait en assez peu de temps. Donc, j'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite. En fait, il faut juste l'utiliser avec parcimonie, je pense, et pas remplir son travail de ça.
Il faudra surtout voir en fait, en fonction de la réglementation qui sera autour des IA, mais également des limites, ça pollue énormément. On en reparlera d'ailleurs plus tard.
Merci beaucoup Gwendal. On va passer maintenant au quiz sur l'IA avec Manon, tout de suite.
Exactement, donc on se retrouve pour un petit quiz, ça va permettre de tester vos connaissances un peu dans l'IA. Donc il y a certaines questions, vous verrez, c'est assez facile parce qu'on en a parlé juste avant, mais on va voir si vous avez bien suivi.
Okay.
Première question, Au cours de quelle décennie apparaît l'intelligence artificielle? Donc trois propositions de réponse, 1950, 1970 ou 1990.
Moi, je dirais 1950 pour voir. Tout à l'heure, on parlait d'un film qui datait de 1965 et on a pu voir qu'ils en parlaient déjà, donc pourquoi pas.
Ouais, je partirais sur 70. Amandine ?
Moi, je rejoins Gwendal. Je crois que c'est dans les années 50.
J'espère gagner.
Les traces de l'IA remontent à 1950.
Ah, ouais. Bravo à vous. J'espère que vous avez gagné aussi. Vous pouvez jouer avec nous, avec ce quiz de Manon.
Donc, pour l'anecdote, c'était dans le futur test de Turing. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'évaluation de la capacité d'une machine à tenir une conversation humaine. Donc, parler avec les humains, donc ce qui deviendra l'IA. Donc c'était dans les années 1950.
Ah oui.
Okay,
deuxième question. Qui sont les pionniers de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est Xavier Niel et Mounir Majoubi, John McCarthy et Marvin Liminsky, ou alors Elon Musk et Steve Jobs?
En vrai, la réponse 2 me semble logique. Il y a Elon Musk qui est assez récent et on a vu que l'IA, ça datait des années 1950. Et Xavier Niel, tu le connais, toi, Léo?
C'est le PDG de Free. Exactement, c'est le PDG de Free, donc je pense que ça n'a rien à voir.
Je pense que ce soit chez vous ou même autour de la table, on est unanime pour dire que c'est la réponse 2.
Donc, bonne réponse, c'était la réponse 2. Donc, John McCarthy et Marvin Liminsky, ils sont cofondateurs du groupe artificiel du Massachusetts Institute of Technology, donc le fameux MIT.
J'ai déjà entendu
parler. Troisième question. Quel pays est le premier investisseur dans le domaine de l'IA?
J'hésite là, soit avec la Chine, soit les États-Unis.
En vrai, je serais
comme
toi.
C'est deux grandes puissances.
Bien sûr, je serais comme Amandine, je dirais les États-Unis, mais comme tu vois, Gwenda, je sais pas si tu vois.
Moi, je dirais la Chine. Parce que, je sais pas si vous avez vu dans les actualités, mais par exemple, il y a la reconnaissance faciale qui est énormément présente dès que tu vas dehors, dès que tu as un feu rouge.
Et
ils te reconnaissent pour la sécurité. Donc, personnellement, je dirais la Chine. Tout le monde maintenant, toutes les entreprises, tous les gouvernements investissent dans l'intelligence artificielle. On l'a vu même en France avec les JO. Donc je ne sais pas, mais moi, je dirais personnellement la Chine.
Il y a une époque où j'aurais dit les États-Unis. Moi, je te rejoins. Je ne sais pas vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à jouer avec nous. Allez, on part sur la Chine.
Ok. Alors, je vais vous donner des petits chiffres qui datent de 2016. Je n'ai pas trouvé plus récent.
Okay.
Mais du coup, en Europe, les investisseurs atteignent près de 3,2 milliards d'euros. En Amérique du Nord, 12,1 milliards d'euros.
Ok.
Et malheureusement, en Asie, 6,5 milliards d'euros.
Ah bon ?
Ah ouais.
Donc, actuellement, les États-Unis sont le leader mondial. Cependant, la Chine s'est fixé l'objectif de dépasser les États-Unis. Étiez un peu dans le vrai, c'était les deuxièmes.
Toujours un peu, ça.
C'est toujours, C'est un peu les deux puissances à chaque fois qui se
croisent.
C'était la fin de ce quiz. On va passer maintenant aux limites de l'IA.
Merci beaucoup Manon, on s'est bien diverti avec ce quiz, j'espère chers auditeurs, cela vous a plu. On va parler maintenant des limites de cette intelligence artificielle, comme on en a un peu parlé précédemment. Malheureusement, les limites de l'intelligence artificielle se manifestent à travers des problématiques complexes et variées. Il faut savoir que l'utilisation malveillante de l'IA pour générer et diffuser des fausses informations, des fake news, est devenue une préoccupation majeure dans le paysage numérique actuel. Alors, les systèmes d'IA peuvent être programmés pour créer du contenu qui imite la réalité, rendant la distinction entre vérité et mensonge de plus en plus difficile. Nous pouvons prendre comme exemple Midjourney qui génère des images comme par exemple la célèbre photo du pape. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
J'ai vu, franchement, c'est bluffant.
Il en doudoune.
On dirait que c'est réel en fait. On dirait que c'est une photo qui s'est vraiment passée. Moi, je connais des proches qui pensent que cette photo est vraie.
Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'ai cru que c'était une vraie photo. Je ne m'étais pas du tout renseignée sur le sujet. J'avoue que l'information m'a fait rire, mais j'ai passé sans vraiment m'attarder. Et j'ai vraiment cru que c'était
c'est pour
vrai.
Ça que maintenant, en fait, c'est important de faire des recherches pour voir si l'image elle est vraie ou pas. Même s'il y a des petits indices, des fois qui restent, les IA, surtout génératives d'images, elles ont du mal à générer, par exemple, tout ce qui va être les doigts.
Oui, le détail.
Exactement, les petits détails, il faut regarder ou sinon s'informer. Et d'ailleurs, maintenant, en gros, dans les métadonnées des images, on peut voir directement que c'est une image générée.
Je ne savais pas.
Et en fait, il y a de plus en plus
de sites.
Et je pense que ça va être une obligation, en fait, même pour toutes les IA.
Pour ne pas tromper,
De mettre dans les métadonnées, donc les données qui sont cachées, vous allez pouvoir voir si c'est quelque chose de généré par une IA. Et je pense que ça va être une obligation dans tous les pays.
Je trouve que c'est une bonne réglementation quand même.
Chers auditeurs, je ne sais pas si vous avez déjà été confrontés à ce genre d'image. Vérifiez bien vos sources. Je ne sais pas si toi, Amandine, tu avais vu par exemple, il y avait une photo de Macron aussi.
Oui, sur X.
Voilà, sur X, anciennement Twitter. Il y avait Macron dans les manifestations. C'était hyper bien fait. Même moi, je me suis renseigné en fait si cette image était vraie. Et donc, du coup, c'était une fake news.
En fait, c'est souvent les politiques qui sont victimes de cette propagation de fake news. Ça va de la manipulation de l'opinion publique à la dégradation de la confiance dans les sources d'informations. Comme Gwendal l'a dit, on a des fois été dans des situations où on ne savait pas trop si c'était une vraie news ou pas, si En fait, on a souvent été perturbés par ça.
Oui, c'est vrai. Ouais. Du coup, faire attention, il faut sensibiliser à la cause des fake news, du fact-checking, vérifier
si
les sources sont bonnes ou pas. Et après, on a pu voir aussi que les algorithmes des intelligences artificielles peuvent aussi involontairement reproduire des biais discriminatoires en créant des résultats inéquitables. La vie privée est également menacée en fait, par toutes ces intelligences artificielles. Donc, c'est des technologies telles que la reconnaissance faciale qui peut être dangereux. Ça soulève des préoccupations majeures, ce qui pose des questions au niveau de l'éthique et de la sécurité. On l'a vu, ça avait créé un peu de débat quand le gouvernement français a annoncé, en fait, il y a quelques mois maintenant, que pour les JO 2024, on utilisera du coup la reconnaissance faciale d'un point de vue sécurité aux alentours de Paris, en fait, pour voir si, par exemple, quelqu'un ne pose pas une bombe, ou vraiment en termes de sécurité. En fait, ils ont voulu rassurer le peuple, entre guillemets, en disant que non, ça ne sera pas, par exemple, comme en Chine. Ça sera seulement, en fait, si, par exemple, il y a un comportement suspect ou dangereux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
Moi, j'ai une question. C'est où, en fait, que va y avoir ce système-là ? Moi, je pensais que c'était dans les transports en commun.
Ça va être dans les transports en commun, ouais. je pense. Mais même dans les villages olympiques.
Alors là, je pense, ouais, voilà, c'est ça. Là, ça sera autour, en fait, des événements sportifs, quoi, pour pas qu'il y ait de problème, en fait, ou de danger, en fait.
Et pour terminer, la dernière limite que nous allons aborder, c'est la dimension environnementale. Ça mérite
attention.
Ouais. Donc l'entraînement et l'exécution des modèles d'IA comme notamment ChatGPT exigent des serveurs massifs et ça entraîne une consommation d'énergie considérable.
Ah, je sais pas.
Oui, tout à fait. Et cette empreinte, on dirait pas, c'est dans l'ombre, mais malheureusement, ça fait une empreinte écologique qui soulève des inquiétudes en matière de durabilité et ça met en évidence la nécessité d'apporter des approches plus éco-responsables dans le futur.
C'est surtout que, en plus, ça risque pas de s'améliorer.
Non, pas du tout.
Dans le sens où on a vu que, par exemple, Microsoft avait investi énormément d'argent. Oui. Alors, certes, ils trouveront des solutions pour un peu moins polluer, mais en fait, il y aura un nombre d'utilisateurs de plus en plus nombreux. En fait, la seule solution, pour l'instant, j'ai l'impression que ça sera peut-être de limiter en fait les serveurs, laisser un accès moindre pour les utilisateurs qui ne payent pas d'abonnement. En fait, sinon, ça va produire une pollution beaucoup trop forte sur les serveurs.
Si vous souhaitez consulter l'article écrit, vous pouvez nous retrouver sur le site internet ou notre magazine. C'est la fin de ce podcast MacDu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.